Voilà, bonjour. Alors, j'aimerais vous lire pour introduire le message de mon mari. Jean 8, versets 1 à 11. Voilà. Va et ne pêche plus. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout d'un coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la mirent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. » Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui est restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné. » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. »
Merci beaucoup. Alors, pour reprendre un peu ce que le texte disait, l'histoire se passe au temple de Jérusalem. Nous sommes aux environs de l'an 25, plus ou moins. Ce jour-là, Jésus avait peut-être dormi au mont des Oliviers, verset 1, et dès le matin, il se rend au temple pour enseigner. Alors, qui est présent? Tout le peuple vint à lui, tout le peuple. Puis les scribes et les pharisiens amènent une femme, au verset 3. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte? La femme est accusée d'adultère, verset 4, et Jésus la sauve sans provoquer d'émeute. On peut lire le mot « va » au verset 11. Donc, elle avait effectivement cette culpabilité. Alors pourquoi est-ce qu'elle est condamnée? À l'époque, selon la loi juive, les personnes qui commettent un adultère doivent être lapidées. Alors comment est-ce que cette histoire s'est passée? Comment tous les détails se sont produits? Ok. Alors je vais regarder si ça fonctionne. Déjà, Jésus, il descend au temple de Jérusalem depuis le mont des Oliviers. Donc il avait dormi peut-être au mont des Oliviers parce que c'était très tôt. Donc on peut imaginer qu'il avait déjà peut-être cette habitude de dormir parfois là-haut. Peut-être il y avait plus de fraîcheur. Le texte ne le dit pas. Alors il descend du mont des Oliviers et puis il entre. Là j'ai mis la porte dorée mais j'en sais rien. Pour entrer au temple. Alors, il se met à enseigner au temple. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que certainement Jésus savait déjà. Ce matin, il s'est dit comme ça, « Ok, ce matin, je veux sauver quelqu'un. » Lui qui sait tout. On a bien chanté. « Je viens devant le trône, mais ici, c'est Jésus qui descend devant les hommes pour sauver quelqu'un. » Là, c'est Jésus qui vient. Alors, ici, Jésus enseigne. Et puis, il y a l'arrivée des scribes et des pharisiens et de la femme. Il présente ce qui s'est passé. Jésus se baisse et dessine sur la terre. Les scribes et les pharisiens insistent. Alors Jésus parle. Jésus dessine. Puis les scribes et les pharisiens s'en vont. Jésus se relève et parle. La femme parle. Puis Jésus parle encore. Alors, cette femme est accusée, mais Jésus la protège. Elle a commis un péché contre Dieu selon la loi de Moïse. Cette femme est utilisée par les scribes et les pharisiens pour tendre un piège à Jésus. Elle ne dit rien, elle n'a pas la parole, il n'y a pas besoin de procès, elle est coupable. Les scribes et les pharisiens disent au verset 5, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Jésus s'est baissé. Il dessine sur la terre. Il semble absent. Un peu comme quand il était dans le bateau en train de dormir. Là, il est ailleurs, il est absent. Et la femme aussi, elle est à terre, près de lui. Alors, qu'est-ce que dessine Jésus ? Celui qui est plus sage que tous les sages de la terre, qu'est-ce qu'il dessine ? Pourquoi est-ce qu'il dit rien du tout ? Les pharisiens et les scribes insistent et Jésus se lève. Et c'est à ce moment-là, ce moment, le seul de cette histoire où cette toile a lieu. Jésus est debout. Il ne dessine plus. Là, il se lève. Et il parle aux scribes et aux pharisiens. Sa parole vient, elle est tranchante comme l'épée. Celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ses paroles retentissent. La parole de Jésus, elle est implacable, imparable. Elle met le doigt, cette parole, sur le péché qui tache le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Même sur les scribes et les pharisiens. Si vous regardez cette toile, il y a quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est que Jésus, il est entre la femme et les pharisiens. Il s'interpose entre la femme et ses accusateurs. Du coup, Jésus lève le voile sur une réalité universelle. C'est que tous les hommes, ils sont aux prises avec le mal, universellement. Ça, c'est une valeur universelle. Ils sont tous condamnés. À l'instant. Et puis, il n'y a aucune arrogance de la part de Jésus. Il n'y a aucune arrogance de la part des pharisiens. La femme ne dit rien du tout. Dans ce texte, aucune arrogance. Sans aucun combat, Jésus parvient à désamorcer le piège. Et les scribes et les pharisiens s'en vont, l'un après l'autre. Le plus âgé en premier, et puis il y a Jésus qui reste, parce qu'il est innocent. Un mot sur les scribes et les pharisiens qui s'en vont. Ce mot, il vient de Paul. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux, seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Ainsi donc, ces pharisiens, qui s'en vont sans arrogance, ils ont là une promesse. Ces pharisiens, cet Israël, ces scribes, qui sont tombés dans l'endurcissement, eh bien, un jour, ils vont être hantés de nouveau sur l'olivier franc. Alors un jour, ces pharisiens, ils vont revenir. Un jour, ils vont retrouver le chemin du salut. Et ça nous laisse aussi une idée du texte, c'est que les pharisiens ne vont pas juste s'en aller comme ça, avec leurs faux motifs, mais il est prévu quelque chose pour eux. Alors Jésus prononce la parole qui libère de la condamnation, au verset 10. On peut passer le dia suivant ? Enfin, la femme peut parler. Elle a de nouveau la parole. Jésus lui donne la parole. Personne, Seigneur, ne m'accuse. Personne, je ne suis plus accusé. Ils ne sont plus là. Le piège a été détendu. Elle n'est plus accusée. Ce n'est pas qu'elle n'est plus coupable, mais c'est simplement qu'elle n'est plus accusée. Elle n'est plus utilisée pour un piège. Mais elle peut de nouveau interagir avec les autres. Alors Jésus va confirmer que c'est vrai au verset 11. « Je ne te condamne pas non plus. » Alors, tous ces moments, tous ces instants, elle était silencieuse. Et là, pour la première fois, elle va dire ce mot « Personne, Seigneur, personne ne m'accuse. » Finalement, c'est vrai. Elle n'est plus accusée. Alors, à aucun moment, Jésus va lui dire qu'elle n'est pas coupable, mais simplement, il lui dit « va et ne pêche plus ». Alors, c'est quoi cette plaisanterie « va et ne pêche plus » ? Est-ce que c'est seulement possible ? Est-ce qu'il y a simplement des gens qui pensent que c'est possible d'entendre cette phrase « va et ne pêche plus » ? C'est impossible. Et là, tous nous sommes rejoints. Tous nous sommes dans le cas des pharisiens, dans le cas de cette femme, en face de Jésus, nous sommes tous au même niveau. Va et ne pêche plus, le texte n'en parle pas, mais elle est tout au début de sa vie avec Dieu. Elle peut le recevoir dans son cœur et lui remettre son péché. En s'en allant, sa vie peut recommencer. Alors, ce matin, chacun, on peut se demander où est-ce que j'en suis. Mais on peut se souvenir qu'on a un défenseur qui se met entre les accusateurs, entre les accusations et nous. Et nous permet de repartir. Il nous permet de continuer à espérer, continuer à imaginer que l'avenir, il n'est pas dessiné à l'avance. Mais l'avenir, il est complètement vierge. Alors, si on peut avoir un grand sourire, c'est parce qu'on peut redémarrer avec Dieu. Va et ne pêche plus, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie, de toute une vie, de toutes nos vies. Faire autre chose que de pêcher, voilà ce vers quoi l'avenir s'ouvre. Autre chose que de pécher. Jésus veut faire de nous des nouvelles créations. Il a atteint cette femme pécheresse. Ce matin, quand il s'est levé, il est descendu au temple. Il allait rencontrer et sauver quelqu'un et faire autre chose avec cette femme que simplement la voir pécher. Il veut faire des nouvelles créations avec nous. Il peut atteindre des meurtriers, des idolâtres, par son Esprit Saint de vie. La seule preuve que Jésus va nous donner, c'est cette présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs, nous connecter avec le Père, nous enseigner avec la Bible. Après cela, Dieu peut travailler en nous. Peut-être ce qui est difficile, c'est d'entendre le Seigneur. Peut-être nous avons des autres difficultés. Alors apprenons à l'écouter. Renseignons-nous autour de nous, faisons des cours de délivrance pour nous enraciner en lui. Puis faire que nous portions des bons fruits. Partager avec les autres, transmettre autour de nous. Est-ce que nous voulons être des arbres qui portent des bons fruits? Allons vers ce but, répandant les bases de la société autour de nous. Soyons comme des arbres dans tous les continents qui accueillons Dieu jour après jour et qui reformons les bases de la société que Dieu voudrait, la société de la cité de David, mais répandue sur toute la terre. Accueillons Dieu dans les cinq dimensions, dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans notre travail, dans l'Église et dans les structures de la société entière. Que Dieu nous aide à être des témoins. Il nous dit, Dieu, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que quand nous nous levons chaque matin, que nous descendons au parking ou à la gare, pour prendre un train ou pour prendre une voiture, pour aller dans un travail ou visiter notre famille ou visiter des gens, ou partir pour un job, eh bien là, Dieu peut faire de nous quelque chose. Il peut nous donner des jobs là où nous sommes. Sauver quelqu'un, pourquoi pas? Jésus est parti ce jour-là. Il avait cette idée en cœur, sauver quelqu'un. Ça peut aussi être notre cas, sauver quelqu'un. Sauver une famille, sauver une entreprise, sauver un corps de métier, sauver des gens qui n'ont pas d'espoir. Ceci est possible pour chacun de nous. Et c'est vraiment là-dessus que Dieu compte, sur notre engagement. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut bien nous utiliser pour son plan infiniment sage, son plan qu'il a défini de toute éternité. Il ne s'arrête pas sur nos péchés. Vous avez vu comme le péché a été évacué. Très vite, le péché a été évacué, sans un combat. Il n'y a même pas eu une parole de trop. Il a simplement fait prendre conscience aux accusateurs, mais qui êtes-vous, vous qui accusez cette personne? Donc, a priori, il n'y a aucun obstacle pour que Dieu puisse changer la société et le monde entier. Alors que nous puissions vraiment nous remettre en question et prendre des décisions qui vont changer nos familles, notre travail, notre société entière. Merci.